carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Chardin, il pittore del silenzio. Ce titre, exceptionnellement en italien, mais qui se traduit de lui-même en français, « Le peintre du silence ». Il fait référence à l'exposition Chardin, actuellement en cours au Palazzo dei Diamanti à Ferrare, en Italie. Nous accueillons à nouveau dans nos studios M. Pierre Rosenberg de l'Académie française pour évoquer Chardin et son monde du silence. Pierre Rosenberg, bonjour.
Bonjour.
Merci d'offrir de votre temps à l'antenne de Canal Académie. Ainsi pouvons-nous porter votre voix aux quatre coins du monde où nous sommes écoutés. Jean-Siméon Chardin est un de vos artistes fétiches, si vous me permettez cette expression. Vous lui avez consacré déjà un premier ouvrage en 1963, une monographie avec Renaud Temperini, suivie du catalogue des œuvres en 1999 chez Flammarion. Tout l'œuvre peinte de Chardin aussi, je crois, chez Flammarion en 2008. Et bien d'autres ouvrages encore qui figurent dans la bibliographie sur notre page écrite de l'émission. Et puis, vous avez assuré le commissariat de cette exposition Chardin à Ferrare. Après une série d'expositions de cet artiste en France, en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis, à l'occasion, à l'époque donc, du tricentenaire de sa naissance en 1999, et à Paris même lors d'une première exposition en 1979. Il était donc temps de faire voyager un de nos plus grands peintres du XVIIIe siècle au sud de l'Europe. Alors, comment a-t-il été accueilli? Car on considère sa peinture plutôt de style flamand ou hollandais, donc du Nord.
Mais si j'ai voulu faire l'exposition en Italie, puis en Espagne, puisqu'après Ferrare, elle sera présentée au Prado, à partir du mois de février, je crois, c'est que le monde latin, le monde que j'aime bien, pourtant l'Italie, c'est ma seconde patrie, résiste un peu à Chardin. C'est un peintre qu'ils ne comprennent pas. Et j'ai pensé que ce pays, l'Italie, qui aime tant la peinture, ce pays de la peinture, ne pouvait pas fermer les yeux devant un aussi grand artiste. Alors l'exposition devait avoir lieu d'un premier temps à Rome, puis ensuite elle s'est déplacée vers Ferrare, qui a très bonne réputation dans le monde des organisateurs d'expositions. C'est en Italie, une exposition à Ferrare, c'est ce qu'il y a de plus chic. Le Palais des Diamants, bien sûr, le Palais des Diamanti, est un endroit merveilleux. Alors bon, il s'agissait de convaincre les Italiens que c'était un grand peintre, qu'il fallait voir ses tableaux, qu'il fallait se recueillir devant ses tableaux, qu'il fallait s'arrêter devant eux, que ce soit les natures mortes ou les scènes de genre, qu'il fallait prendre son temps, qu'il fallait comprendre que derrière cette simplicité toute naturelle, derrière ces tableaux qui paraissent peints sans effort, comme allant de soi, il y avait au contraire une très grande recherche, un très grand raffinement, aussi bien dans la composition que dans les couleurs, que ce peintre qui était discret, qui est un peintre de la pudeur, un peintre de la discrétion, un peintre au fond qui ressemble à rien de ce que l'on peint en général, qui ne ressemble pas du tout à la définition de la peinture française du XVIIIe siècle. Il fallait faire comprendre aux Italiens ce que ce peintre avait de grand.
Et donc vous avez réussi à leur faire comprendre.
Je ne sais pas. Je crois que l'exposition a un certain succès. J'ai fait de mon mieux pour obtenir des prêts très importants pour l'exposition. Et en effet, il y a beaucoup de chefs-d'œuvre de Chardin qui sont présentés. Vous savez, ce n'est pas facile de faire une exposition Chardin pour plusieurs raisons. La première, c'est que les tableaux sont fragiles. Et par exemple, je n'ai pas pu emprunter, ou très peu pu emprunter, des pastels. Les pastels ne voyagent pas. Donc il y en a deux dans l'exposition et ça manque à l'exposition incontestablement. Et puis, non seulement c'est un peintre fragile, mais il a très peu peint. C'est un peintre, on le considérait au XVIIIe siècle comme paresseux. Mais il n'était pas paresseux du tout, il peignait très lentement. Et il ne vendait un tableau, il ne livrait à son client un tableau que lorsqu'il en était satisfait. Et ça prenait des mois et des mois et des années. Il y a des anecdotes célèbres. Il peignait des lapins et avant qu'il n'ait fini son tableau, les lapins étaient pourris. Alors on était obligé de jeter les lapins et Chardin détruisait son tableau. Donc c'est un peintre lent. Et donc l'œuvre est peu nombreuse. Il y a peu de tableaux de Chardin. Ils sont dans des endroits qui sont peu généreux dans les prêts. Et on comprend qu'un musée qui a un beau Chardin le réserve pour ses visiteurs plutôt que de le prêter à une exposition. Donc une exposition difficile à faire pour plusieurs raisons, dont celle-là. Et j'étais très heureux de pouvoir faire en sorte qu'il y ait à Ferrare quelques grands chefs-d'œuvre, tels que très grands chefs-d'œuvre. L'exposition est bien accrochée. Et je m'en suis peu occupé, mais je m'en suis occupé un petit peu. Et par exemple, quand on entre dans une des ailes du Palais des Diamants, on voit tout à fait au fond un tout petit tableau qui appartient au musée d'Édimbourg, qui est un vase de fleurs. C'est peint très libre. Ce petit vase de fleurs qui n'a l'air de rien est tellement mis en valeur que je ne crois pas qu'un visiteur ne s'arrêtent pas devant ce tableau et ne comprennent pas ce que ce tableau, non seulement a de moderne, parce que ça a été répété souvent, on dirait un Manet, etc., mais aussi ce que ce tableau a de profondément dans sa simplicité, d'émouvant, de touchant. On s'arrête devant un tableau de Chardin, comme disait Diderot, pour se reposer, pour se recueillir, pour oublier le quotidien. Et on s'arrête comme dans un havre de paix, comme dans un bosquet frais. Et c'est ça, les tableaux de Chardin. Ceci dit, pour compléter un petit peu ce que je viens de dire, et à l'inverse de mon autre grand amour, puisque vous rappeliez que Chardin est une vieille passion, en effet, j'ai publié en 63, mais je l'avais écrit un peu avant, dans la petite collection Carré, que les plus anciens de vos éditeurs connaissent, de chez Skira, de l'éditeur Skira, cette petite collection Carré, qui était très admirée à l'époque. J'ai publié à ce moment-là ce qui a été mon premier livre sur Chardin, qui vient d'ailleurs d'être réédité en italien, donc 50 ans après qu'il ait été écrit. Donc voilà, c'est un vieil amour, et c'est un amour qui contrebalance en un certain sens mon autre amour qui est Poussin. Alors Poussin, il y a toujours trop à dire. Les interprétations sont innombrables, les intentions de Poussin sont complexes et nécessitent des explications. C'est un peintre difficile, sans doute. Il est difficile, mais il est grandiose. Chardin, il n'y a rien à dire, mais il est tout aussi difficile. Et déjà Diderot le constatait, on n'entend rien à cette magie. Et Diderot, qui a été son défenseur admirable au XVIIIe siècle, lui non plus ne trouvait pas les bons mots pour décrire le miracle de Chardin.
Permettez-moi d'ajouter à Diderot, par exemple, Marcel Proust, qui écrivait « De Chardin, nous avons appris qu'une poire est aussi vivante qu'une femme, qu'une cruche est aussi belle qu'une pierre précieuse, ou encore les frères Goncourt, qui ont laissé aussi des pages admirables sur Chardin. Tout peindre dans son ton vrai, sans rien peindre dans son ton propre. C'est à ce miracle que ce coloriste s'est élevé. Oui, » Voilà quelques citations comme ça qui sont restées dans l'histoire.
Celle de Proust est particulièrement belle. Celle de Proust est admirable. En plus, elle a été écrite quand Proust était très très jeune. Il a consacré des pages merveilleuses qui ont été inédites pendant très longtemps. Elles ont été publiées dans les années 50 au pastel tardif de Chardin. Celle de Proust est particulièrement belle, je trouve, dans la mesure où c'est vrai que les objets du quotidien que Chardin peint, parfois en leur donnant une taille immense sur de tout petits panneaux, parfois au contraire en les réduisant, au contraire, ces objets qu'on ne regarde pas, parce que ce sont des objets de la cuisine, d'une grande banalité, une marmite, une cruche, tout ça. Il sait faire en sorte qu'une fois qu'on les a vus sur ses tableaux, on les regarde d'un autre œil chez soi. Il a cette capacité d'ennoblir ces objets du quotidien, de montrer que ces objets dont on se sert tous les jours ont leur beauté, et que pour découvrir cette beauté, il faut les yeux du peintre. Et ses yeux, il les a vus.
Oui, il a vraiment ce merveilleux talent de sublimer chaque objet qu'il a sous les yeux. Et pourtant, ce n'était pas un peintre idéologue ou qui voulait introduire une quelconque morale.
Il n'y a aucune leçon. Aucune leçon chez lui. On a voulu voir en lui le précurseur de la Révolution. Ça n'a rien à voir. Il peint. C'est un peintre. Et pour lui, il essaie, en tant que peintre, de dire les mêmes choses avec ses pinceaux que les écrivains disent avec des mots. Et il le fait sans jamais trahir la peinture. La peinture, c'est sa priorité. Alors, il le fait, évidemment, à sa manière, laborieuse, lente, ambitieuse. Parce que je crois qu'il a souffert, lui-même Chardin, de ne pas avoir reçu l'éducation de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Cette éducation qui permettait de peindre les sujets religieux, les sujets mythologiques, de peindre ce qu'on ne voit pas. Et au fond, au XVIIIe siècle, un peintre qui peint ce qu'on voit est considéré comme un peintre mineur. Ce qui compte, c'est les peintres qui peignent ce qu'on ne voit pas. L'Assomption de la Vierge, la mort de Germanicus, tous ces sujets-là. Évidemment, personne n'a jamais vu ça. Donc, c'était ça les grands peintres au XVIIIe siècle. Ceux qui avaient la capacité de transcrire sur la toile des mots, des images. C'est-à-dire de passer du texte à l'image, par l'intermédiaire bien sûr du dessin. Chardin n'a pas dessiné, mais d'avoir cette capacité d'inventer, d'imaginer des scènes. Chez Chardin, il n'y a ni invention ni imagination. Et il en a souffert. Il a souffert de ne pas avoir reçu cette éducation qui lui aurait permis d'aborder ce qu'on appelait à l'époque les grands genres. Donc il en a souffert et il aurait voulu lui-même être ce peintre d'histoire, ce peintre du haut de la hiérarchie des genres. Et il a même fait en sorte que son fils, avec qui il s'est très très mal entendu, devienne un peintre d'histoire. Il lui a obtenu, je pense par piston, le Grand Prix de Rome. Ce fils, ça se termine très mal puisque le fils se suicide à Venise. Ça se termine très très mal et ça a été évidemment un grand chagrin pour Chardin. Mais enfin, là n'est pas la question. La question, c'est que ce qu'il peint, il l'a sous les yeux. Il ne peint que ce qu'il a sous les yeux. Il refuse et il a besoin de peindre directement ce qu'il a sous les yeux sans passer par l'intermédiaire du dessin. Et qu'évidemment, ça donne à sa peinture quelque chose de très particulier, mais qui ne correspond pas du tout à ce qu'au XVIIIe siècle, on considérait comme le fait de grand peintre. Il est le XVIIIe et en même temps, il est le contraire du XVIIIe siècle.
Absolument, oui, justement, c'est ce que j'allais dire, parce qu'on connaît davantage du XVIIIe les Watteau, Boucher, Greuze, Fragonard ou David. Et Chardin semble y occuper, enfin comme vous venez d'ailleurs très bien de le décrire, semble avoir une place tout à fait à part. Mais déjà pour commencer, c'est un des rares d'ailleurs qui ne fait pas la traditionnelle ou le traditionnel voyage en Italie.
C'est juste ça d'ailleurs, c'est juste. C'est peut-être pour ça que les Italiens résistent, ils n'aiment que les peintres qui sont allés chez eux. Mais vous avez raison, il ne fait pas le voyage parce qu'il est un peu un autodidacte. Il n'a pas de véritable formation, il est formé par l'Académie de Saint-Luc, il apprend le métier durement lui-même à la tâche. Mais voyez le 18e, bon, pensons à Boucher, c'est l'image du 18e siècle, pour simplifier, c'est le siècle de la femme, c'est le siècle des sujets un peu lestes, c'est le siècle du sourire, d'un monde gai. Chez Chardin, c'est l'art le plus chaste qui soit. Les femmes jouent un rôle, mais bien moins grand que les adolescents et les enfants. C'est un peintre de l'enfance et de l'adolescence, à la Rousseau, si on veut. Donc c'est un art extrêmement chaste, pudique. Le 18e n'est pas très pudique. Au contraire, il est parfois un peu grivois et licencieux. Donc il est là aussi le contraire du 18e siècle. Donc il est le 18e siècle par certains côtés, mais il est aussi le contraire du 18e siècle. Il ne faut pas oublier qu'il y a deux Chardins. Il y a le Chardin des natures mortes, si on met entre parenthèses les portraits tardifs, les pastels, et il y a le Chardin des scènes de genre. Ce sont deux mondes très différents, et peut-être pas si différents que cela l'un de l'autre.
À propos de scènes de genre, ça me fait penser à une anecdote que vous pouvez peut-être nous raconter. Quand on lui a demandé de faire l'enseigne d'un cabinet de chirurgien, alors il s'est inspiré d'un bateau, justement.
Oui, ça c'est tous les débuts, ce sont les tout débuts de Chardin. Le moment où il pensait qu'il s'inscrirait dans une tradition justement à la Watteau, c'est le moment où au fond il n'avait pas trouvé sa voie encore. Sa voix, lui, il la trouve pas tout jeune. Le fait que ce qui lui convient, c'est de peindre d'après le motif et non pas d'imagination, ce dont il n'est pas capable. Sa voix qui lui prouve qu'il faut peindre ce qu'il a sous les yeux sans passer par l'intermédiaire du dessin, tout ça a été lent. C'est un peintre lent et qui trouve sa voix difficilement.
Jusqu'à décourager parfois ses commanditaires.
Ce qui a découragé parfois ses commanditaires. Là aussi, c'est intéressant. On dit pas reconnu dans son temps, c'est pas vrai du tout. Ses clients, ce sont non seulement des peintres, il a beaucoup de peintres comme clients, mais il a surtout quelques grandes familles princières. La reine de Suède, le prince de Liechtenstein, Frédéric le Grand, Catherine la Grande, j'oublie la Catherine la Grande de Russie. Toutes ces grandes figures commandent à Chardin des tableaux et qui prouvent bien que, isolé sans doute, un peu méprisé parce que n'étant pas capable de peindre des grands tableaux historiques, il a quand même ses admirateurs en grand nombre. J'ai oublié Louis Ulrich de Bade. Non, il a comme ça un certain nombre, sans oublier naturellement en France.
Mais parce qu'il peint quand même un peu à la manière flamande, donc
oui,
les gens du Nord qui sont sensibles à sa
peinture. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait juste. Mais disons que la technique de ces natures mortes au début doit quelque chose au précédent flamand. Fight, cette technique où on voit les poils des lapins, où on voit ça, c'est sûr. Mais très vite, sa technique s'oriente vers quelque chose de bien plus dépouillé. Et au lieu de peindre le détail comme le font les Flamands, ce qui l'intéresse, c'est de peindre les masses, de peindre les volumes, les poids, le poids des choses. Et puis d'autre part, il y a les sujets. Alors les sujets des scènes de genre, les peintres hollandais du XVIIe siècle les ont souvent abordés, mais avec des intentions. Et chez Chardin, je crois qu'il ne faut pas chercher des intentions. Les scènes de genre de Chardin refusent l'anecdote. Ils détestent l'anecdote. Alors évidemment, grâce à ces scènes de genre, il est devenu célèbre. Pourquoi ? Parce que ces scènes de genre ont été gravées et que Chardin touchait des droits d'auteur sur ses gravures. Et ces droits d'auteur lui ont, si j'ose dire, mis un peu de beurre sur les épinards, comme on dit en mauvais français. Mais enfin, c'est vrai, incontestable. Ces droits d'auteur ont compté. Mais ce qui est intéressant dans ces gravures, c'est que les graveurs et les clients des graveurs, pas les graveurs eux-mêmes, ne pouvaient pas accepter des gravures sans sujet. Les graveurs se faisaient faire par des poètes généralement de troisième ordre, des légendes pour justement donner des sujets à ces tableaux qu'ils n'avaient pas. Alors par exemple, le retour du marché, bon, elle revient, la servante revient du marché, elle tient un gigot sous le bras, elle tient dans un linge, ça n'est rien d'autre qu'une servante qui revient du marché et Chardin essaie de montrer le côté répétitif de sa promenade au marché, le poids du gigot dans son linge, son visage un peu éloigné de la réalité, rêveur, le tout avec un jeu de porte, etc. Le graveur, lui, raconte une petite histoire. Ah, vous voyez, elle revient du marché, mais on ne sait pas combien d'argent de sa patronne elle a mis dans sa poche, sur les courses, parce qu'il ne pouvait pas accepter cette idée d'un tableau sans sujet. Et pourtant, il n'y a pas de sujet chez Chardin, parce que c'est la peinture qui compte. Et le sujet, c'est le contraire de la peinture, en un certain sens pour lui. Donc, pas de sujet.
Pas de sujet, mais un monde.
Un monde. Alors, pas de sujet, on a mis longtemps à comprendre que c'était des tableaux sans sujet. Et le tableau, peut-être le plus célèbre de Chardin, c'est le Bénédicité. Enfin, il a été pendant longtemps le tableau le plus célèbre de Chardin. Vous savez que Chardin est allé un dimanche de 1740 à Versailles en faire don à Louis XV. Il est allé faire une petite promenade à Versailles et il a donné le Bénédicité du Louvre au roi. qui n'était pas un grand amateur de peinture, mais quand même, le geste en soi est important. Ça montre d'une part, il n'aurait pas fait ce geste s'il n'avait pas été sollicité pour le faire. Comme vous savez, là aussi, il ne faut quand même pas non plus oublier que Chardin a été logé par le roi au Louvre, ici juste en face de vos
Louis
studios.
XV.
Par Louis XV. Mmh. Il a été logé au Louvre, ce qui était un grand honneur, et qu'il avait des responsabilités très importantes, puisque c'est à lui que revenait l'accrochage des salons, les fameux salons. Donc, vous voyez, toujours une ambiguïté entre un peintre retiré et un peintre quand même reconnu. Donc, le bénédicité.
Ses ambitions, oui.
Mmh. Oui, ambition, une vraie ambition. Les pastels de la fin de sa vie le prouvent. Il est très fier de son métier, sûr que la postérité le consacrera. Non, non. Mais le bénédicité, en effet, lui, on a voulu le lire comme un tableau à sujet. Et au XIXe siècle, cet été, il reproduit ce bénédicité sur tous les calendriers de poste. Seconde moitié du XIXe siècle, en tout cas. Pourquoi ? C'est parce qu'on voulait à tout prix voir dans ce tableau cette bourgeoisie qui ferait laborieuse, honnête, par opposition à la cour, corrompue et volage. Donc un symbole de cette bourgeoisie qui serait la bourgeoisie de la Révolution, si vous voulez. Mais c'est une interprétation du XIXe siècle qui, à mon avis, ne correspond absolument pas aux intentions de Chardin. Si le bénédicité a un sujet, c'est plus, à mon avis, un sujet janséniste, ou du moins du renouveau du jansénisme au XVIIIe siècle, donc un sujet d'une religion familière, personnelle, profonde, et non pas, il n'y a pas d'interprétation politique possible.
Oui, oui, ça on a très très bien compris. Mais à propos de ses ambitions, il était quand même finalement reconnu par l'Académie royale de peinture et de sculpture. Et je crois qu'il y avait aussi une anecdote avec un autre grand peintre du 18e, de l'Argilière.
Ah, c'est l'Argilière qui oui, oui.
Il a fait une petite
c'est la légende, si vous voulez.
Blague.
Chardin, pour entrer à l'Académie, avait disposé ses tableaux, dit-on, dans une salle de l'Académie, avant la salle elle-même des délibérations. Et alors, l'Argilière passe et il demande de qui sont ces tableaux flamands. Et Chardin dit, c'est de moi. Et à ce moment-là, l'Argilière lui dit, mais oui, mais vous serez reçu et agréé le même jour. Et il a été reçu et agréé en 1728, le même jour. Je crois que c'est un peu une légende. Mais enfin, c'est un symbole. Et de cette reconnaissance par l'Académie, rare à l'époque, d'un artiste qui n'était pas formé par elle. L'Académie est une institution qui, à l'époque, était très vivante. Elle était ouverte. Et c'est à la gloire de l'Académie royale de peinture et de sculpture d'avoir accepté Chardin relativement jeune, il avait 29 ans, et d'en avoir fait un de ses membres devenu par la suite important, et d'avoir compris qu'il ne fallait pas laisser passer ce grand artiste et le laisser en dehors de l'Académie. J'espère que les académies actuelles font de même.
Donc après cette brève, mais ô combien intense incursion dans le monde de Chardin, et avant d'examiner une des toiles avec votre regard de connaisseur, Pierre Rosenberg, écoutons, si vous voulez bien, une séquence musicale pour nous reporter dans le siècle du peintre. Pierre Rosenberg, c'est donc la deuxième fois que vous avez eu la gentillesse de participer à notre nouvelle série « Une œuvre, un regard ». Et dans le cas de Jean-Siméon Chardin, nous pourrions dire un académicien sous l'œil d'un autre académicien, puisque Chardin fut reçu à cette fameuse Académie royale de peinture en 1728, comme vous venez de le dire dans notre première partie. Après donc l'exposition au public de l'Arrêt, qui l'a rendu assez célèbre. Oui. Alors, quelle est l'œuvre que vous avez choisie cette fois-ci, Pierre Rosenberg ?
Mais je vais vous surprendre, j'ai choisi un tableau qui n'est pas en bon état, qui n'est pas un des tableaux les plus célèbres de Chardin, et qu'on appelle les amusements de la vie privée. C'est un tableau relativement tardif, de 45-46, c'est-à-dire Chardin a 45 ans ou 46 ans ou 47 ans, puisqu'il est né en 99. C'est un petit tableau qui est en Suède depuis toujours, puisqu'il a été commandé par Louise Ulrich de Suède, qui était la sœur de Frédéric le Grand de Prusse, et une commande qui a été passée à Chardin. C'est une de ses dernières scènes de genre qui nous montre une femme assise dans un grand fauteuil rouge. Derrière elle, il y a un rouet, il y a une table, il y a une belle marmite de porcelaine. Et alors, elle-même, elle est assise, assez élégamment vêtue. Ça n'est plus du tout les servantes du début des scènes de genre de Chardin qui sont des prises dans le monde populaire. Là, c'est déjà une bourgeoise. C'est sans doute la seconde Madame Chardin. Il avait beaucoup aimé sa première femme, Marguerite Saintard, qui est morte en 1935. La seconde femme, Marguerite Pouget, qui était une veuve riche, a mis Chardin à l'abri du besoin. Et surtout, elle a géré ses affaires. Elle ne doit pas être très bon gestionnaire. Donc, peut-être est-ce elle qui est représentée sur ce tableau. Je répète, le tableau n'est pas en bon état, il n'a jamais quitté la Suède. Il a sans doute souffert en Suède du climat. Je veux dire, par là, les craquelures se sont un peu durcies, il fait froid en Suède. Je pense que c'est ça qui explique cet état.
Les
châteaux sont mal chauffés, vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas du tout un tableau inconnu, c'est un tableau devant lequel on peut passer sans s'arrêter. Je l'aime ce tableau pour une raison très simple. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit une femme qui nous regarde, dont nous pensons qu'elle peut nous regarder, et qui a abandonné son livre qui est posé sur ses genoux. On voit très bien qu'elle est encore dans son livre. Elle est dans son livre, elle ne nous voit pas. Et elle est encore dans le roman qu'elle doit lire, je pense que c'est un roman, elle est encore dans cette aventure, et elle n'a pas quitté le monde du roman pour remettre les pieds sur terre. Et je crois que Chardin a su peindre ça d'une manière merveilleuse. Ce moment où nous sommes absents du monde et où nous sommes encore dans le récit. Alors son livre n'est pas fini, bien qu'elle a juste arrêté la lecture de son livre. Et je veux dire que cette idée de peindre ce moment si particulier de la lecture, si particulier de ce monde que nous voyons, mais qui est celui de nos rêves, de la lecture, et alors que nos yeux sont ouverts sur le monde de la réalité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je crois que c'est un tableau, à cet égard, très audacieux, que d'avoir peint dans cette atmosphère confinée, silencieuse, paisible, d'avoir su peindre cette femme, ayant abandonné la lecture, mais étant plongée dans son livre, qui regarde sans nous voir, c'est quelque chose d'extraordinaire et de très touchant. C'est pour ça que j'ai choisi ce tableau.
J'ai vu dans votre catalogue que les frères Goncourt voulurent intituler ce tableau « La sérénité ».
Oui, c'est un joli titre. J'avais oublié ça. C'est en effet le monde de la sérénité. Mais oui, le titre, c'est le titre de la gravure qui a été faite d'après le tableau au XVIIIe siècle. Pour les raisons que j'ai dites précédemment, c'est qu'on voulait à tout prix donner à ces tableaux des sens. Et amusement, c'est mieux que sérénité. Mais qui a su peindre la sérénité ? Lesquels sont les grands artistes qui ont su peindre ce moment si particulier de la sérénité ? C'est là qu'il est unique, Chardin, et qui rejoint les plus grands peintres, ceux qui ont justement su, à travers des sujets très simples, une femme qui lit, Dieu sait si c'est banal, dépasser cette simple lecture pour nous représenter, non pas... En fait, le sujet, c'est le contraire de ce qu'on voit. Le sujet, c'est ce qui se passe dans le roman, et notre imagination peut aller comme elle veut. Nous pouvons nous-mêmes nous imaginer le genre de roman qu'elle lit. Je ne sais pas ce qu'elle lit, en fait. Mais est-ce que c'est un roman d'aventure, de cap et d'épée, ou est-ce que c'est au contraire une poésie ? En tout cas, on peut rêver là-dessus. Et ce sentiment de sérénité que donne le tableau, c'est quelque chose que quelques grands artistes ont su peindre. Je ne sais pas très bien lesquels, Corot peut-être, dans ses plus beaux tableaux, mais qui est rare parmi les peintres. Donc, vous voyez, l'image est une chose, et chez Chardin, elle ne se limite jamais à ce que l'on voit. Il y a autre chose derrière.
En tout cas, dans ce tableau, on sent bien ce fameux monde du silence, qui est le titre donc, de l'exposition Chardin.
C'est un monde de la
Pittore
paix.
Del silencio.
Pittore del silencio. C'est un monde du recueillement, de la paix. C'est un monde sans bruit, c'est un monde sans mouvement.
Et contrairement à tous les peintres. Contraire au XVIIIe siècle, où il y a énormément de bruit, énormément de mouvement.
Énormément de mouvement. Les peintres sont fiers de savoir saisir le mouvement à l'arrêt. Chez Fragonard, par exemple, c'est extraordinaire. Il peint le mouvement et le geste à l'arrêt compte. Chez Chardin, au contraire, pas un mouvement. Un monde paisible. Et à mon avis, il ne savait pas peindre le mouvement. Donc ça l'arrangeait bien de ne pas savoir le peindre pour justement peindre ses tableaux.
Il en a fait sa force.
C'est vrai, il y a des peintres trop doués pour qui il faut savoir se limiter, se refréner. Je pense par exemple évidemment à Ingres qui savait tout faire, ou à Picasso qui savait tout faire. Et pour eux, le problème a été de ne pas tomber dans la facilité, savoir se retenir. Et il y a des peintres au contraire qui ne sont pas très doués et qui savent faire de leur faiblesse des forces et qui savent justement transformer ce qu'ils ne savent pas faire en force pour peindre ce qu'ils savent au contraire faire, je pense. Titien qui n'est pas doué non plus. Bon, Cézanne, dans un certain sens, commence. C'est pas très doué, si vous voulez. C'est pas un peintre surdoué. Même Matisse n'est pas un peintre surdoué. Chardin n'est pas un peintre surdoué du tout. Il n'a pas de facilité, ni dans ses dessins. Mais il sait faire de ses faiblesses, de ses limites, des forces extraordinaires qui le distinguent de tous les peintres autour de lui.
Et puis, il était vraiment infatigablement à la recherche de la perfection.
Voilà, il ne laissait jamais sortir de son atelier un tableau dont il n'était pas content. Et il y a le problème chez lui, des répétitions, il y a toutes sortes de problèmes qui se posent, mais c'est un peintre de la perfection, d'où d'ailleurs le tout petit nombre d'œuvres de lui.
Quelque chose comme 200.
Oui, c'est ça, un peu plus de 200 sans doute, peu de tableaux perdus. Une œuvre particulièrement courte pour un peintre du XVIIIe siècle par rapport à Boucher, par exemple, qui a peint des milliers de tableaux. Oui, non, un peintre laborieux.
Dans ce tableau, il y a, donc, comme vous avez si bien décrit, cette dame dans ses rêves, dans son après-lecture, c'est-à-dire le sentiment qui est passé à travers son personnage. Et puis il y a aussi, au point de vue couleur, il y a ce... On pourrait parler quand même peut-être clair-obscur, mais il y a une magnifique luminosité...
Sur le visage de
cette dame.
Avec cette coiffe très
Et puis les meubles qu'on distingue très peu, mais qui sont quand même d'une extrême subtilité, au fond.
C'est l'autre aspect de Chardin sur lequel le XXe siècle s'est beaucoup attardé. Et c'est un grand constructeur. Les peintres cubistes se sont passionnés pour Chardin parce qu'ils ont vu dans ces tableaux de Chardin des sortes de tableaux cubistes déjà. Et c'est vrai que les tableaux sont construits avec une rigueur, une manière... Il y a des plans extrêmement sévères, des portes qui s'ouvrent et qui se ferment avec une très grande habileté. C'est construit avec une perfection et un goût de la perfection exceptionnelle. Donc, on peut lire Chardin de différentes manières. Sa grandeur, c'est en effet le fait que chaque siècle, chaque génération a son Chardin, si j'ose dire. Et il en reste un qui est évidemment le peintre de tous les siècles qu'on admire partout. C'est la fameuse anecdote rapportée par Cochin, son premier biographe, écrit au lendemain de la mort de Chardin en 1979, et qui raconte cette histoire très touchante, en des termes très bien choisis, de ce peintre bavard qui vient voir Chardin et lui expose longuement comment on peint un tableau, le choix des couleurs, comment tout ça s'arrange, comment il faut les mélanger. Alors ça agace beaucoup Chardin. Ce bavard, à qui il ne reconnaît pas grand talent, lui porte sur les oreilles. Alors subitement, il lui dit « Mais qui vous a dit qu'on peint avec des couleurs ?» Alors l'autre est très étonné. Il dit « Mais comment ? Mais avec quoi est-ce que vous voulez donc qu'on peigne ?» Et Chardin lui répond, la phrase est célèbre, mais elle est tellement juste pour Chardin. On ne peint pas avec des couleurs, mais on peint avec le sentiment. Et je crois que tous les tableaux de Chardin sont peints avec le sentiment. J'ai un grand faible, je regrette de n'avoir pas pu choisir deux tableaux, mais ça c'est de votre faute. Si j'avais eu à choisir un second tableau, j'aurais choisi les lapins morts du musée d'Amiens. Ce sont deux pauvres lapins abandonnés sur une petite table de pierre. Deux pauvres lapins de Garenne abandonnés là, tués par un chasseur évidemment. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de tableaux qui soient aussi écologiques que celui-là, et surtout peu de tableaux qui savent peindre la mort, la simple mort d'animaux, avec autant de compassion, de tendresse et en même temps d'émotion. Et là aussi, ces pauvres lapins de Garenne sont peints avec ce sentiment que Chardin a toujours su insuffler à ses toiles.
C'est vrai, on vous a soumis à une épreuve très très cruelle avec cette série de une œuvre, un regard, c'est-à-dire une œuvre chez
Chardin. Oui, sauf que c'est pas un peintre cruel, c'est un peintre de la tendresse.
Non, mais c'est cruel comme épreuve.
Oui, bien sûr, mais c'est un peintre de la tendresse. Il y a une sympathie entre lui et les animaux qu'il peint. Et il y a une sympathie aussi pour les adolescents, les enfants. Et c'est un peintre qui... tous ces des sentiments que...
Très simple.
Très simple, très direct. Mais la sympathique en peinture, aujourd'hui, qui a de la sympathie pour ces modèles parmi nos grands peintres contemporains? C'est une idée de peindre la sympathie, de rendre sympathique des sujets. C'est une idée, si j'ose dire, très démodée. Mais enfin, moi, je crois que c'est une grande idée pour un peintre.
Oui. Bah, écoutez, il faudra attendre une autre occasion et une autre émission pour évoquer d'autres œuvres et chefs-d'œuvre de Chardin, donc de ces natures mortes, ces gibiers, des retours de chasse, les lièvres, les lapins, vous l'avez dit, que sais-je encore, ces fruits, ces fleurs, ces singes, peintres, philosophes ou antiquaires. Il avait quand même beaucoup d'imagination.
Peu d'imagination. Mais je peux ajouter une toute petite chose, c'est que Ferrare est une ville magnifique, c'est une ville triste. Une ville assez chardinienne,
ah bon,
en fait.
Oui, c'était la ville des Est.
Oui, bien sûr.
C'est une ville triste, je n'ai jamais été à Ferrare.
C'est une ville de brouillard, c'est une ville magnifique, enfin, c'est une ville. Mais je crois qu'un week-end, pour des Français, un week-end à Ferrare, outre Chardin, peut vous donner de grandes satisfactions.
Donc pour aujourd'hui, c'est à nouveau avec un grand regret que nous vous quittons, Pierre Rosenberg et Jean-Siméon Chardin. Merci infiniment pour votre regard si pertinent et nous espérons vous retrouver donc très très bientôt sur Canal Académie. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.